J'avais commencé le monde de la consultance, donc on travaille beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté et quand je me sens pas libre, eh ben, je commence à être vachement frustré. Donc j'ai vécu une énorme frustration dans le fait d'avoir un projet entrepreneurial dans lequel je voulais mettre toute mon énergie et d'avoir eu les poings et les pieds liés par un autre travail. Donc j'étais dans un secteur qui n'était pas totalement aligné avec mes valeurs. Donc ça s'est vite transformé en une petite souffrance. Et donc je me suis dit, il faut que je me casse, quoi. Être plus cohérent avec soi-même, je suis certain que c'est une des clés du bonheur. Donc je suis plus heureux, c'est clair.
Bonjour, c'est NB, tu es sur Storyfic. Ta mission ce jour? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça? Toutes les explications sont sur storylific.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Qu'est-ce qu'on est quand on démarre une belle carrière mais qu'il nous manque l'essentiel? C'est ce dont on va parler avec Maxime Mertens, un amoureux de l'aventure qui s'est donné pour mission de partager ce goût de l'outdoor tout en respectant la planète. J'ai vraiment été intéressée par son parcours, sa décision de sortir très tôt des sentiers battus, confortables mais vides de sens, pour être en alignement avec ses valeurs et son besoin de liberté. J'espère que cela t'inspirera aussi. Dans cet épisode, on va parler de son expé packraft en Laponie avec son groupe d'amis. Je te laisse découvrir le nom du groupe dans l'épisode, c'est pas mal. Et on parlera aussi de ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, aventure, avec la création de Discoverant qui fait rimer expé avec durabilité. Je salue au passage la cofondatrice de Discoverant, Marie Frère, qui m'a livré Maxime à domicile le jour de l'enregistrement. Merci à toi, tu vas pouvoir juger tout de suite si t'as bien fait. Bonjour Maxime.
Bonjour Anne-B.
Alors on va commencer par la question classique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Donc moi je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans, donc tout juste sorti du nid. Et mes passions c'est avant tout tous les sports d'extérieur, les sports d'aventure, donc principalement l'escalade, l'alpinisme. Et puis depuis peu, 3-4 ans, il y a Alpacraft, qui est une embarcation assez légère qu'on peut porter sur notre dos et qui permet d'allier randonnée et descente en fait d'une rivière. Donc ça permet de sortir des sentiers battus et de partir vraiment en pleine nature sur une rivière sans devoir en fait suivre les chemins de randonnée quoi.
Ouais, super. Et j'ai jamais pris la peine d'expliquer ce qu'était un packraft. Alors est-ce que tu peux me faire ce petit plaisir?
Voilà, donc un packraft, c'est une embarcation très légère qui permet d'être portée sur un dos et elle se roule comme un matelas de randonnée, donc on peut la mettre aussi dans un sac de rando. Et donc ça permet vraiment d'aller marcher pendant 5, 6, 7 jours, porter ce micro-raft sur le dos, et puis de le mettre à l'eau et commencer à descendre une rivière, quoi.
Et on peut aller sur des rivières déjà, il faut que ce soit des eaux calmes ou ça peut déjà remuer un petit peu avec ça?
Ça peut déjà remuer un petit peu, donc en rivière on a des classes, donc les classes c'est les niveaux si tu veux. Et donc ça va de 1 à 6. Et donc avec un packraft, tu peux facilement aller dans du classe 4. Et nous, on l'a d'ailleurs fait. Et voilà, donc ça tient super bien les remous. Et puis voilà, il faut un peu savoir lire la rivière pour éviter les pièges. Donc les petites pierres. Dans certaines rivières, attention, il y a des siphons. Ça, faut savoir les repérer. Donc c'est l'eau qui passe sous les pierres et donc qui t'aspire vers le fond. Mais ouais, donc le packraft, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui permet de mener vers des possibilités infinies. En randonnée et en descente de rivière, en raft et kayak.
Ouais, génial. C'est d'ailleurs un truc dont on va parler. Comment toi, est-ce que tu es tombé dans le monde de l'aventure? Est-ce qu'il y a eu un personnage, un récit, une histoire qui t'a fait rêver ou...
Tout d'abord, il y avait les livres de Frison Roche. Je pense que beaucoup les ont lus. Premier de cordée ou voilà, la rivière de la Nahanni, quand il en parle aussi, c'est assez touchant. Mais donc ça, c'est les tout premiers livres qui te font un peu baigner dans l'aventure, qui font rêver. Mais après, moi, je dirais plutôt que c'est un ami qui a pris un jour ses 5 meilleurs amis avec lui et qui nous a amenés au sommet d'une montagne, hein, 4000 mètres. Et ça, c'était la première fois que je faisais quelque chose où j'étais vraiment sorti de ma zone de confort, donc sur glacier avec crampons, etc., où il y avait des risques de crevasses. Je devais avoir 18 ans, où je me suis dit, ok, là, on fait quelque chose d'assez passionnant. Et avant ça, sinon, ça se limitait vraiment à plus de la randonnée en autonomie, du bivouac, etc. Mais là, c'était ma première sortie d'Alpi, et lui m'a vraiment donné le vrai goût à l'aventure, où on commence à faire des choses, où on n'a pas le contrôle vraiment de tout, en fait. Et voilà, c'est cette première sortie qui m'a donné ce goût-là. Et puis ensuite, quand j'étais étudiant, je suis rentré au Cap Expé, donc qui est un quota projet à Louvain-la-Neuve, où on organise des sorties, des expéditions pour les étudiants en pleine nature, que ce soit du ski de randonnée, du VTT, de l'escalade. Et alors, il y avait aussi l'Ice Bay, le Cap Expé, dont le siège était à Louvain-la-Neuve, où on allait manger des barbecues et des fondues le soir de temps en temps pour partager nos récits d'expédition.
Ouais, trop bien, trop bien. Et alors, toi, tu vas commencer une vie pro tout à fait classique après des études en économie, c'est ça, toi?
En gestion, oui.
Et puis, à un moment, tu t'es plus retrouvé dans ce monde-là. Raconte un peu.
Oui, donc j'ai commencé le monde de la consultance. C'est un monde voilà, qui prend énormément de temps, on va dire. Donc, on travaille beaucoup en consultance. J'avais déjà un projet entrepreneurial à côté, donc je ne m'y retrouvais plus trop entre les deux projets. C'était un monde assez intense. On y apprend beaucoup, on y apprend énormément. Et donc, j'en suis reconnaissant. Je suis content d'être passé par là parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de liberté, je pense. Et quand je me sens pas libre dans le temps que je veux mettre dans quelque chose, je commence à être vachement frustré. Donc, j'ai vécu une énorme frustration dans le fait d'avoir un projet entrepreneurial dans lequel je voulais mettre toute mon énergie et tout mon temps et d'avoir eu les poings et les pieds liés par un autre travail qui me passionnait pas plus que ça. Donc, j'étais consultant dans un secteur qui n'était pas totalement aligné avec mes valeurs, donc je me suis posé énormément de questions. Et donc ça s'est vite transformé en une petite souffrance parce que tu te retrouves à travailler pour un secteur auquel tu ne crois pas vraiment. Et donc je me suis dit, il faut que je me casse, quoi. Il faut que je me casse rapidement. Et donc finalement, je me suis lancé plein temps dans mon projet entrepreneurial. Et là maintenant, je suis beaucoup plus en ligne avec moi-même et ça me permet d'être... En tout cas, plus cohérent et être plus cohérent avec soi-même, je suis certain que c'est une des clés du bonheur. Donc je suis plus heureux, c'est clair.
Et c'est, oui, c'est une belle histoire d'un revirement. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes pour l'instant qui se rendent bien compte que voilà, le monde de l'entreprise, c'est pas toujours très aligné avec ce qui va faire qu'on aura un monde demain. Et je salue tous ceux qui ont le courage de changer leur fusil d'épaule. Tu viens du monde de l'escalade et de l'alpinisme à la base, hein. On va surtout parler de ton aventure en packraft aujourd'hui, mais j'ai quand même quelques questions sur ton univers. Quelles sont tes aventures les plus mémorables en montagne, les endroits, les grimpes
Mais il y a les grimpes vraiment mémorables dans le sens où ce sont des montagnes fétiches pour tous les alpinistes, je dirais. Il y a la Dent du Géant, qui est un pilier qui culmine à 4000, et qui est un pilier où tu finis sur 100 mètres d'escalade en 5C. Et cette dent est magnifique quand tu arrives, t'as le panorama du Mont Blanc devant toi, il n'y a rien à faire, tu vois cette dent qui sort sur les Grandes Jorasses, c'est incroyable comme vue, quoi. C'est une de mes montagnes préférées pour ça. Et donc ça, je dirais que c'est une des escalades les plus mémorables, même si du coup elle est fort fréquentée. Il y a beaucoup de monde dans le massif du Mont Blanc, c'est connu, parce que le massif du Mont Blanc offre une accessibilité très facile à la montagne avec les remontées mécaniques, etc. en été, mais cette montagne est magnifique et il n'y a rien à faire, voilà. Puis évidemment, je dirais aussi dans le même sens, dans le même courant, des montagnes les plus en vue de tous les alpinistes, il y a évidemment le Mont Blanc. Mais alors là, on a fait la traversée depuis Courmayeur, on est parti de Courmayeur à pied, on a traversé le sommet du Mont Blanc et on a descendu sur Chamonix, donc on a fait la voie du Pape, qui est une très belle voie, très sauvage. Et puis après, on rejoint à la toute fin la voie normale, où là, il y a du coup du monde, puis on redescend sur l'autre face du Mont Blanc. Mais donc ça, c'était des très beaux souvenirs. Maintenant, moi, j'ai des montagnes coup de cœur, où là, il n'y avait personne, tu fais ta trace. T'as beaucoup moins de sécurité dans le sens où t'es avec ton compagnon de cordée et si l'un tombe dans la crevasse ou quoi, là t'es tout seul sur le glacier, quoi. Il y a pas 10 autres cordées qui peuvent venir t'aider. Donc il y avait l'arête nord de Montpourri qui est une montagne qui est pas du tout courue et pourtant assez jolie.
C'est peut-être son nom.
Beaucoup disent que c'est son nom et donc cette montagne est assez canon.
Et elle est où celle-là?
Donc cette montagne, elle se trouve en fait juste derrière les Arcs. En fait, quand on va derrière les Arcs, c'est très peu connu, mais il y a une vallée totalement sauvage, très encaissée, et puis là, il y a le petit refuge du Mont Pourri, et puis là, il y a moyen de monter, je crois que, elle est dans le top 4 des plus hautes montagnes de Tarentaise, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, il y a la Grande Casse qui est une des deux premières, puis t'as le Mont Pourri qui est pas loin, et qui est vraiment, l'arête nord est une magnifique arête à faire, comme course d'arête. Il y a encore... Ouais, on a fait d'autres qui étaient vachement jolis. Après, c'est difficile de mettre un classement là-dedans.
Ouais, des beaux moments en tout cas. Ouais. C'est quoi ton moment préféré en montagne?
Une bonne question. Il y a tellement de moments dingues, mais donc il y a des... En tout cas, en général, c'est les levées de soleil. Donc en montagne, on se lève très tôt, on dit qu'on fait une course de montagne, parce qu'on fait une course contre le soleil. Le but, c'est de redescendre la montagne avant que les ponts de neige au-dessus des glaciers n'aient trop fondu, donc qu'il y a un trop gros risque de tomber dans le glacier, donc dans la crevasse. Et donc, mes moments préférés à chaque fois, c'est quand tu montes, t'as un moment le lever de soleil, t'as des couleurs mais magnifiques, et t'es au milieu des sommets, quoi, et t'es au milieu des montagnes, et t'as ce lever de soleil, ces couleurs de dingue, ça reste mes moments préférés en général en montagne. Sinon, j'ai plein de petits moments avec... j'ai un compagnon de cordée spécifiquement avec qui je fais beaucoup d'alpinisme, mais plein de moments plutôt humains avec lui où juste tu partages des trucs de dingue, typiquement ce lever de soleil. Puis il y a des moments forts aussi, il était à deux doigts de tomber dans une crevasse à un moment, tous les deux on a eu peur, et puis après, quand t'es sorti d'affaire, t'es en mode de, on est sorti et on se sent bien quoi.
Ouais, on se sent bien vivant.
Ouais, on se sent bien vivant, exactement.
Alors, ton aventure en packraft, cette fois-ci, j'ai ma petite Valentine qui voulait te demander...
Combien de temps a duré ce voyage ?
14 jours environ.
Alors, c'était entre copains, il faisait quand même un petit peu froid, il faisait pas beau tout le temps. Et justement, ma petite Amandine, vous voyez, trouvait que ça avait pas l'air très très chaud, tout ça. Elle se demandait...
Comment vous faites pour survivre avec tout ce froid ?
Oui, donc là, pour le froid, franchement, on n'est pas non plus dans le polaire.
C'est pas l'extrême. Elle est frileuse, ouais. Donc elle dit « Ah, oh, ça a l'air froid, comment ils font ?» Les astuces anti-froid.
Donc la première chose, c'est pour le soir, il faut toujours avoir un bon duvet, donc aller taper dans le moins 10 les vrais duvets en plume. Ça, c'est primordial. Il faut avoir une bonne tente, ça, on l'a appris à nos dépens, ça, c'est clair, pour le soir.
Tu vas le raconter dans une minute, ouais.
Ensuite, sinon... franchement, on n'était pas très très bien équipés. Hein, donc, il faut savoir qu'on était une bande de 5-6 amis, les mêmes d'ailleurs, avec qui je suis parti faire ma première montagne, donc ce que j'ai raconté là un peu plus tôt. Et avec cette bande, on est vraiment les. On peut dire qu'on est. Ouais, on s'appelait les Ahuris.
Oui, j'allais dire, ça, tu me l'avais pas dit la première fois. Donc, j'ai déjà eu les engagés, mais les Ahuris, oui, c'est très belge ça. Hein.
Les Ahuris, tout à fait, parce qu'on est des Ahuris, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oubli. On part à l'arrache, quoi. On est des jeunes, on se dit « Ok, on verra bien sur place ». Et donc, il y a un peu de préparation. On a fait beaucoup de préparation, vraiment, pour s'expé. On n'est pas trop parti à l'arrache. Mais il y a quand même un des gars qui est arrivé avec ses chaussures, pas des chaussures adaptées du tout. Il avait acheté au stock de l'armée des combat shoes, mais enfin, pour qu'ils prennent la forme de tes pieds, ça prend du temps.
Oui, c'est la tendinite assurée, en fait.
Ouais, exactement. Un autre qui avait pris sa veste Jack & Jones, pas du tout adaptée non plus. Donc... moi et un de mes potes qui avons peut-être un peu plus l'habitude, on s'est dit oui, qu'est-ce qu'on emmène là ? Ça va pas tenir longtemps tout ça. Donc on a eu un peu peur à ce moment-là, mais donc heureusement on s'en est bien sortis au final, même s'il y a eu on a eu des intempéries, donc il s'est passé quelques trucs, mais on s'en est bien sortis.
Ok, bon, on va les raconter. Et oui, en tout cas, ouais, j'ai bien, sur YouTube, c'est les Ahuris en balade. ça m'a bien fait marrer. Alors, mais par contre, la prépa, vous avez fait des chouettes trucs, quoi. Vous avez fait votre propre nourriture lyophilisée, dis donc.
Ça, c'est un truc qui est vachement cool à faire quand tu pars en rando ou quoi. Pas hésiter, quoi. Prendre une déshydrateuse. Franchement, ça se trouve à la location ou ça... Enfin, il y a beaucoup de mamans qui ont ça chez eux parce qu'ils déshydratent leur nourriture parce que, je sais pas, ils ont un potager.
Tu sais, j'ai vu qu'il y avait maintenant des déshydrateurs, oui, solaires.
Ah oui?
Ouais, okay, je te jure, j'ai vu ça, ouais, j'ai reçu un com de presse là, j'ai dit « Oh, c'est pas mal ça
!» C'est chouette.
Je te montrerai.
Et du coup, avec cette déshydrateuse, on a déshydraté toute notre bouffe pour 14 jours, puis on l'a mis sous vide, donc on a fait des petits beef jerky fait maison, donc c'est des petites lamelles de viande que tu fais cuire dans du soja.
Oh, j'y étais presque. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on mange à midi? Une petite tranche de pain, de seigle, unique en son genre, unique aussi le midi, suivi d'un petit morceau de fromage que nous portons, ça sera bientôt la fin parce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors ici c'est du Savoie, et enfin du beef jerky, un beef jerky que nous avons confectionné nous-mêmes, en plus ou moins grande quantité, ça ressemble aussi un peu à de la drogue, et une crampe.
On a fait plein de fruits et légumes déshydratés. On s'est fait nos sauces, donc on s'est fait des sauces curry, des sauces bolo, tout ça en déshydraté. Et alors, on a pris beaucoup de couscous avec nous. Et alors, on mélangeait ces sauces avec un peu d'eau dans notre couscous. Et puis, c'était couscous tous les soirs.
Et alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?
Du couscous.
Qu'est-ce qu'on mange demain ?
Du couscous.
Et après-demain ?
Du couscous.
Et qu'est-ce qu'on a mangé hier ?
Du couscous.
Et vous aviez aussi préparé avec Google Earth.
Ouais. Donc, en fait, quand tu vas faire une rivière sauvage comme ça, donc la rivière s'appelait la Keitum River, il faut un peu se préparer à ce qui va arriver sur ta route. Donc, tu descends cette rivière, tu te dis « Ok, je la descends, mais je sais pas ce qu'il y a un kilomètre devant moi. » Et en fait, ta vision dans un packraft, t'es vachement bas. Donc tu vois vraiment pas au loin ce qui se passe, quoi.
C'est pour essayer de pas faire comme dans tous les dessins animés où tout à coup il y a une chute d'eau et on arrive dessus quand c'est déjà droit.
C'est exactement ça. Et donc il faut se préparer, il faut savoir où sont les chutes d'eau. Faut pas se retrouver dans la chute d'eau et te retrouver bêtement noyé parce que t'arrives dans un classe 6. Ouais.
Pour rester des ahuris mais pas des démolis, quoi.
Voilà, exactement. Parce que ahuris, oui, mais trop con, on essaie d'éviter quand même d'être trop con aussi dans ce qu'on fait. On a juste analysé avec Google Earth, évidemment, chaque portion de la rivière qu'on allait descendre. On a vu qu'il y avait une machine à laver un moment sur le chemin. Des gros remous. Et en effet, c'était un classe 6, donc c'était vraiment... Il n'y avait pas moyen de survivre à passer là-dedans. Mmh. Rocher, gros rapide, gros remous. Et donc, on était plutôt safe quand on arrivait vraiment à ce moment-là de la rivière. On est sorti de nos bateaux 1 kilomètre avant, on a porté nos bateaux, et puis on a pique-niqué à côté de la grosse cascade, on s'entendait même pas parler tellement l'eau, il y avait du remous.
Ah ouais.
Et puis on a continué, et puis on s'est remis à l'eau, quoi.
Et donc, machine à laver, c'est quand il y a tellement de remous que quand t'es pris dedans, tu tournes, et t'as du mal à t'en sortir.
C'est vraiment du remous violent, quoi. C'est une petite cascade, déjà une bonne petite cascade, mais avec un débit gigantesque, quoi. Tu te fais broyer là-dedans, quoi.
C'est pas le bon plan, non. Il vaut mieux manger du couscous. Donc, comme c'est du packraft, effectivement, vous avez fait la partie pack. Donc, il y a eu quelques jours de marche bien pénibles, avec des pauses, on peut dire, assez fréquentes.
Oui, tout à fait. Donc, en gros... Donc, tu portes ta bouffe, tu portes un packraft sur ton dos, tu portes ta tente, ton sac de couchage, ton matelas si tu veux bien dormir. Et puis, à faire, t'en as un minimum. De toute façon, t'as tes trucs KO. Mais donc, tout ça, ça revient quand même à beaucoup, beaucoup, surtout la bouffe. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de place, de la bouffe pour 5, pour
combien,
4
vos...
jours. On était entre 20 et 25 kilos et puis on faisait partager en fonction de la taille et du poids de chacun. J'ai un pote qui fait 2 mètres de haut et qui pèse 95 kilos. Et ben lui, il avait un sac un peu plus lourd.
Toi, tu ferais bien te demander c'est pourquoi on t'a pris avec, si c'est vraiment des potes ou si c'est juste la carrure qui a été le biais d'entrée.
Tu peux l'appeler le baudet. Non, c'est une blague.
Moi, bien sûr. Donc c'est pas mal. On a 20 kilos, là, c'est chaud quand même. Hein. Et alors, les pauses fréquentes, c'est toutes les 20 minutes, je crois, que vous avez dit au
début.
Hein.
On avait tellement mal aux épaules qu'on faisait des pauses toutes les 20-30 minutes. On regardait notre montre. Hein. Il y a vraiment les 5 dernières minutes, tu regardes ta montre, c'est comme retenir ta respiration, tellement t'as mal aux épaules. Et évidemment, après 4-5 jours de marche, on avait 4 jours de marche, parce qu'on a fait 4 jours en tout, on avait les épaules bien, bien rouges, on était bien content d'aller sur les packraft.
Tu m'étonnes.
Et d'arrêter la marche, quoi.
Non, carrément. Mais les paysages en valaient la peine.
Dingue. Donc, les paysages en Laponie, faut s'imaginer, hein, là, je fais appel à ton imagination, ou si t'as déjà été, juste à ta mémoire, mais t'arrives dans des paysages déjà en septembre, je sais pas si c'est comme ça aussi en juillet, je vais y retourner maintenant en juillet, donc je pourrais te le dire, mais en septembre, les couleurs, c'est automnal, c'est rouge, jaune, partout, des petits buissons rouge jaune magnifiques avec des collines sur les côtés, puis tu passes des cols, t'arrives sur des vallées gigantesques totalement à l'infini, quoi, avec des petites rivières qui passent au milieu, c'est juste magnifique. Et puis là-dedans, t'as des rennes, t'as un maximum d'animaux que tu peux apercevoir, et donc ce sont des paysages grandioses, et ça à la porte de l'Europe, quoi, vraiment juste, enfin, franchement, en Suède, il y a moyen d'aller en voiture, c'est une longue route, mais... La Laponie, ok, c'est encore plus au nord, mais la Suède, tu peux déjà l'attendre en voiture, quoi.
C'est tentant, en tout cas. C'est vrai qu'on a un peu redécouvert, avec le confinement, on a beaucoup un peu redécouvert les plaisirs de l'Europe, mais c'est dingue, quoi. C'est vrai que pour avoir été en Nouvelle-Zélande, je me dis, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Il y a la Suède, la Norvège, tous les pays scandinaves, c'est juste sublime aussi, quoi. Il n'y a pas... Non, mais on a toujours l'impression que si on n'a pas été loin, ça vaut rien. Mais si, il faut un peu changer ces mentalités-là. Alors, tu as fait aussi la traversée d'un lac, mais ce n'était pas très tranquille.
Ouais, donc,
de deux lacs même, je pense.
En gros, on a fait donc, tout à fait les 4 jours de randonnée. Donc, le voyage s'est construit comme ça. On est arrivé à Kiruna, puis à Abisko. Là, on a fait les 4 jours de rando avec les sacs assez lourds. Et puis, au bout du 4e jour, on s'est jeté à l'eau. On est arrivé dans un premier lac, un grand, grand lac. Et on part le matin, tout se passe bien. La météo est pas top, mais bon, c'est la Laponie, pas de souci.
Alors, pour l'instant, c'est un temps typique d'une Laponerie. Il y a 5 minutes, il faisait comme ça, magnifique, plein d'espoir. 5 minutes plus tard, il fait comment? Il fait comme ça. Parabam! Le Mordor. Juste sur nous. Bellissimo.
Et puis on se met à l'eau, et puis le vent se lève, on commence à avoir un vent de face, mais impressionnant. Les vagues dans cet énorme lac commencent à se lever aussi, donc là, tu te dis, je suis plus dans un lac, je suis dans l'océan, quoi. Ça commence à faire peur, parce que t'es dans ton petit kayak, tu te dis, si je tombe là, au milieu de ce lac, non seulement je vais avoir très froid, mais en plus de ça, combien de temps j'ai pour nager jusqu'au rivage? Est-ce que j'arriverai à remonter sur mon packraft? Mon packraft sera retourné dans l'eau, il y a les vagues... Tu commences à te poser des petites questions. On n'en peut plus, on avance. tant bien que mal, mais quand t'as du vent de face comme ça, c'est limite si t'avances pas à reculons, en fait. On avançait super lentement, donc ce premier jour, on a à peine avancé sur ce lac, puis on s'est arrêté parce qu'on a vu une petite barque sur le côté du lac qui était retournée, barque au milieu de nulle part. On se dit, bon, ok, c'est peut-être notre chance, on va aller sous cette barque pour se protéger du vent. Donc on se met sous la barque, on met des pierres sur les packraft pour pas qu'ils s'envolent. On essaie de se réchauffer tant bien que de mal, mais à ce moment-là, on n'est vraiment pas bien, quoi. Et voilà que quelques minutes plus tard, il y a un hélico qui arrive au-dessus de nous. On a un ami qui fait le signe non, on n'a pas besoin d'aide à l'hélico, signe N, puisque on n'avait pas besoin d'un hélico, et puis on reste des ahuris étudiants sans argent, et donc on n'avait pas envie de douiller l'hélico par après.
On peut pas se permettre, laissez-nous mourir.
et donc en fait l'hélico il se pose quand même, il s'en fout, il arrive, il se pose, mais il a rien compris celui-là. Et en fait en sortent quatre gars avec des énormes mâles. Deux femmes et deux hommes, plein de chiens, avec des énormes mâles, et puis on les aide à enlever les mâles de l'hélico, on se dit bon ben on va les aider, on n'a rien d'autre à faire, on enlève tout le bordel, et puis ils commencent à nous donner des armes, donc on commence à transporter des armes, on commence à se poser des questions, mais ces gens-là qui sortent de l'hélico, eux aussi ils se demandent qui sont ces quatre gars au milieu de nulle part, qui sont là et qui commencent à nous aider, et en fait c'était des chasseurs norvégiens, qui venaient chasser là pendant... Donc l'hélico les dropait là, il y avait une petite cabane un peu plus loin, et les dropait là pour qu'ils chassent là pendant 2 semaines, et puis l'hélico, au bout de 2 semaines, vient les rechercher, ils repartent et ils rentrent en Norvège, quoi. Quand l'hélico repart, on se retrouve à se regarder dans le blanc des yeux, et d'un moment, il y en a qui se dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Mais vous, qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, nous, on descend la rivière en packraft, et on a encore 10 jours de descente, là, et donc là, on se réchauffe un peu, parce que la météo est super mauvaise, puis ils nous regardent... Enfin, ok, très bien, et nous on vient chasser, ben, si vous voulez, venez boire un verre dans le chalet avec nous. Donc c'était une petite hutte, hein, toute petite, de 4 mètres, enfin de 16 mètres carrés, 4 sur 4 je pense. Il y avait juste des lits, à peine de place, et donc eux ils restaient là pour 2 semaines pour chasser. Et donc nous on met nos tentes tout près, du coup on se dit ok, très bien, voilà, on va se mettre là, il y a beaucoup de vent, au moins il y a une sécurité, il y a ces gens tout près de nous, et on a bien fait. Parce que ce soir-là, donc, on s'endort, tout se passe bien avec nos tentes, et voilà que vers 3h du matin, énorme brasse de vent, une de nos deux tentes se déchire sur 50 cm facilement, enfin une grosse déchirure. Et là, on commence à prendre peur. Donc, il est 3h du matin, on a une tente complètement déchirée. Ceux qui ont la tente déchirée se disent « Ok, on va récupérer tout ce qu'il y a de la tente, on va toquer chez les chasseurs et on va demander de rester là jusqu'à demain matin. » Donc, ils ont réussi à se mettre assis un peu sur les lits des chasseurs jusqu'au lendemain, parce que c'est vraiment tout petit comme petite cabane. Et l'autre partie évite d'aller voir si les packraft étaient toujours bien en place avec les pierres, etc. Puis on les a ramenés, on a tout mis près des tentes, etc. Et puis l'autre partie a continué à dormir du coup dans l'autre tente, en espérant que ça tienne. Bah, c'est une très mauvaise nuit, donc on s'est réveillé assez tôt. Et le lendemain, du coup, c'était premièrement grosse discussion. On a une tente cassée, qu'est-ce qu'on fait? On est au début du voyage, est-ce qu'on continue? Ou est-ce qu'on essaye de faire demi-tour et on revient sur nos traces? Et puis on revient sur la randonnée en sens inverse, ou on continue la randonnée, quoi. Et du coup, on choisit de continuer quand même. On fait une réparation de tente avec... les chasseurs avaient du scotch, donc on a mis plein de scotch sur la tente. On s'est dit, s'il y a une autre tempête, bah, c'est foutu. Mais la météo, normalement, était assez... Enfin, était fiable et assez bonne. On avait la météo des chasseurs par radio. Voilà, donc là, on décide de continuer, mais contre l'avis des chasseurs qui nous avaient demandé si on avait un téléphone satellite. On est des ahuris, on n'a pas pris de téléphone satellite, on y a pensé honnêtement.
La belle économie.
Voilà, on en a parlé. On savait même qu'ils en louaient même à l'aéroport, on avait entendu, enfin, de Zaventem, donc pour ceux qui ont besoin d'un téléphone satellite, apparemment, il y a moyen d'en louer à l'aéroport. Enfin, c'est ce que quelqu'un nous avait dit. Et on s'est dit non, pas besoin, tant pis. Et grosse erreur, là, on a tout de suite compris que c'était une connerie, mais infinie. Faut savoir qu'on avait tous, 19-20 ans.
Ils sont encore tous vivants. Si, si.
Oui, c'est ça, 2018, donc 21 plutôt. Donc on avait tous 21 ans. C'est quelque chose où j'ai l'impression que quand t'as 21 ans, c'est vite, tu te dis « Ok, pas de téléphone satellite. » Aujourd'hui, je répéterai, mais à qui veut l'entendre, c'était une grosse connerie, toujours prendre un téléphone satellite quand tu pars en pleine nature, à 100 km du premier village, c'est la base. Parce que là, donc, on a débriefé, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qui se passe si l'un de nous a un problème, un vrai problème ?» Deux personnes qui courent pendant 2 jours pour essayer de retrouver la première civilisation, quoi. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Donc, ou pour essayer de trouver la première barre de réseau plutôt. Mais bon, voilà quoi. Donc, c'était vraiment pas dingue, c'était pas malin. Et c'était, si je pouvais me retrouver il y a 4 ans, c'est la première chose que je me dirais, c'est prendre un téléphone satellite pour cette expédition.
Je demande souvent les meilleures astuces pour ce genre d'expé comme celle que tu as faite toi. Ben voilà.
Oui.
Là, dans cette expé-là, c'est.
Ou une balise, oui. Tu sais, maintenant, il y a des balises où des balises.
On voit si tu bouges ou pas.
Tes proches peuvent te suivre par balise. J'ai un ami qui a voyagé pas mal en voilier tout seul près de la Norvège et lui, il avait une balise du coup. Et que son père suivait tous les jours. Donc voilà.
C'est pas mal. Et donc après, ça s'est bien passé.
Donc après, voilà, donc on a notre tente maintenant cassée, on a notre morale un peu à zéro, on finit par choisir de continuer. On continue, et là, c'était 8 jours d'intensité incroyable, mais d'intensité dans le sens positif, pas intensité, vraiment dans l'intensité du moment vécu. C'est plein de fragments de souvenirs, donc des rapides, des classes 4, moi je me souviens, nouveau débile, jeune, mais il y avait un classe 4, on le savait, et j'avais trop envie d'aller dedans. On s'était dit, on va sur le côté, on va le voir d'abord. Non, c'est pas grave, c'est parti, je m'en fous, j'y vais. Ouais, les gars, vous inquiétez pas, j'y vais. C'est super bien passé, c'était des gros remous, ça faisait quand même un peu peur. Puis voilà, au bout du rapide, le calme total, un soleil couchant, c'est un souvenir incroyable, et je venais de vivre juste une adrénaline dingue, et se retrouver après ce rapide, dans ce soleil couchant, et puis voir mes potes qui suivaient derrière, qui arrivaient dans le rapide, et qui découvraient ces gros remous, et qui étaient dedans, et qui étaient super concentrés, et puis tout ça arrivait derrière ça. Puis on a une journée aussi où il a fait magnifique. Vous êtes même beau et chaud, on était en t-shirt, parce que donc la journée, il peut faire beau. En fait, on était en septembre, et c'était une canicule cette année-là, donc il avait fait un peu beau en journée, un peu chaud parfois, et par contre la nuit, il fait de nouveau, il gèle de nouveau déjà en septembre. Et là, je me souviens que, même chose, on se laissait porter par le courant, on était tous couchés sur ce backcraft, on était déjà crevés, c'était peut-être le 8e jour, et on profitait du soleil, et là, j'ai Nico, mon pote, qui sort un harmonica et qui commence à jouer de l'harmonica, et l'ambiance à ce moment-là, où on se laisse porter, un soleil de dingue, rien autour de nous à part de la nature magnifique. Et l'harmonica, c'est un fragment de souvenir, mais incroyable.
C'est comme dans les films, ça, hein?
Ouais, c'était vraiment fou.
L'objet indispensable pour toi dans toute aventure, ben, je crois que le téléphone satellite, c'est pas mal. Il y a autre chose qui t'accompagne toujours?
Si on part vraiment loin, c'est clairement un téléphone satellite. Mais par contre, ce qui m'accompagne toujours, sinon, ça c'est clair, c'est le canif. Mais,
ah voilà!
Tout le temps. Mais donc oui, dans tout, il y a d'office un canif. Mais après, dans une aventure loin, où tu pars vraiment loin de la civilisation... J'adore les répéter, c'est une balise ou un téléphone satellite, parce que t'auras pas de réseau, personne pourra te retrouver. Si t'arrives une connerie, il faut que tu puisses appeler quelqu'un, les secours, n'importe qui, ou que tu puisses le signaler via la balise, quoi.
Ouais, vivre une aventure, d'accord, mais pas risquer sa vie, quoi.
Il faut trouver un juste milieu, je pense. Ça veut dire qu'il y a le risque que tu es prêt à prendre, et puis il y a la connerie. Et je veux dire, le risque que tu es prêt à prendre, c'est quelque chose de personnel, mais tu le fais bien, le risque que tu le prends. Tu le fais bien, donc si tu pars en montagne, tu pars pas sans connaître les bases. Tu connais les techniques de mouflage, tu connais certaines techniques de base, tu sais utiliser le matériel que tu as sur toi. Si tu pars en pleine nature...
Ben de même mouflage.
Ouais, mouflage, c'est, pardon.
Ah oui,
c'est une sorte, si tu veux, c'est comme un... C'est pas vraiment un nœud, mais c'est décupler la force, en fait, sur une corde, via un système de poulies, pour pouvoir récupérer quelqu'un qui est tombé dans une crevasse, et donc décupler son poids pour le tirer de la crevasse, quoi, tu vois, ce genre de choses.
J'ai appris quelque chose, c'est
bien. Donc, c'est des techniques qui sont un bagage indispensable, et comme ici, je pense que la gestion du risque en expédition est quelque chose de primordial. Il y a vraiment des outils qui existent par rapport à ça. Il y a certains guides qui ont des matrices, et donc tu peux regarder la matrice. Est-ce que j'ai bien préparé tout ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Et si t'es OK dans les trois matrices, c'est bon, tu es prêt pour partir sur cette expédition ou ce voyage. Et c'est vraiment indispensable. Je pense qu'il faut vraiment être malin avant tout pour... Enfin, malin. Pas malin, mais responsable dans ce qu'on fait. Et puis, après, tu choisis le risque que tu es prêt à prendre.
Donc, le fail qui t'a le plus appris. C'est vrai, maintenant, vous louez des tentes, hein, c'est ça? On en va en parler, mais... Vous louez les mêmes tentes que celles qui s'est déchirée?
Mais donc...
C'est rassurant. Ouais. On va en parler, ouais. Location de matériel d'aventure.
Donc voilà, tu veux que j'en parle maintenant ou...
Écoute, non, on va d'abord parler du fail qui t'a le plus appris, mais on va en parler après, c'est clair. Ça faisait juste trop rire en disant dire qu'il ose. Ça met en confiance quand même. Hein.
C'est ça.
Bon, donc, mais ils ont déjà testé tout ce qu'il fallait pas faire. Donc c'est bon. Non, vas-y, raconte le fail qui t'a le plus appris. C'est ça, se retrouver là au milieu de la pampa et se dire, ah tiens.
Mais oui, c'est cette tente du coup qui s'est déchirée, je pense, parce que les autres fails, c'était des fails où on n'y pouvait rien, je pense. Alors que là, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, si une connerie arrive à causer ça, c'est totalement de notre faute, on est trop cons et c'est de la connerie, quoi. Alors que d'autres fails où il se passait des choses. Enfin, un jour, quand il y a un de mes potes qui est tombé dans une crevasse, mais il en est sorti direct, il était le haut du corps étant... C'est comme ça. C'est, je veux dire, tu peux pas tout le temps les voir. Il y a des ponts de neige qui... On a juste pris un peu trop de temps sur la course parce qu'on était peut-être pas assez bien acclimatés. C'est comme ça. C'est pas... Voilà. Maintenant, quand il y a moyen, quand c'était un risque qu'il y avait moyen de limiter, là c'est de la connerie de juste parce que par confort ou par parce que tu veux économiser 20 balles, même pas. Tu vois, si on divisait ce téléphone satellite par tout le monde, ce serait revenu à rien, quoi. Ou même par fierté. Là, ouais, c'est bête, quoi.
Et le succès dont tu es le plus fier?
Ouf, ça, c'est une question compliquée. Succès, parce que... Enfin, moi l'XP, en général, si je le fais, c'est totalement pour moi, et c'est pour ça que j'adore ça, parce que je suis quelqu'un de pas du tout compétitif. Et donc, ce que j'aime faire, c'est les choses où je me mets en compétition contre moi-même, ou des expéditions où, en fait, je le fais pour vivre des trucs moi-même, quoi, vivre des trucs assez... Des émotions fortes, déjà, c'est des émotions assez intenses, et puis des moments vraiment pour moi et avec mes potes, quoi. Et donc, quand je fais une expé ou un sommet, ou un... Ouais, en alpi, je me dis pas, ok, c'est un succès, on a atteint le sommet, quoi. Moi, il y a des sommets, on a fait demi-tour, et c'était génial, quoi. J'ai passé un super bon moment, et c'est peut-être ça, les plus beaux moments, c'est vraiment de dire, bah, voilà, on n'est pas arrivé au sommet, les gars, mais... On a vécu un truc cool, quoi, et c'était chouette. On était dans un cadre magnifique, parce qu'on le fait pas pour le sommet, en fait.
Ah ouais, non, c'est bien, c'est ouais. Un super beau message aussi. Mm-hmm. Alors, au cours des 5 dernières années, quel nouveau mindset a le plus amélioré ta vie, tu penses?
Le nouveau mindset, ou enfin, plus un mindset pour l'instant, parce que je le mets en pratique seulement maintenant. Ça fait longtemps, avec le Covid, etc., évidemment, que j'ai pas pris l'avion, mais là maintenant, avec Discovery notamment, donc... Je veux en tout cas, parce que moi je pense vraiment qu'il faut arrêter de prendre l'avion, tout simplement. J'essaie de le formuler de manière différente, mais en fait c'est ça. Et donc le nouveau mindset, c'est plutôt de se dire, ok, prendre l'avion, je comprends qu'il faille prendre l'avion pour certaines choses, mais alors s'il faut prendre l'avion, on reste longtemps et on profite longtemps de l'endroit. Et alors t'as pris l'avion, mais t'as profité une fois dans ta vie d'un truc magnifique où t'es resté peut-être 3-4 mois sur place, et t'as visité un peu l'Amérique du Sud, et t'as pris un avion pour aller en Amérique du Sud, ça, évidemment. Maintenant, prendre l'avion pour une semaine de vacances et aller je sais pas où, je trouve... Enfin, moi, perso, j'aime... Enfin, voilà, ça, c'est un truc que je ferais pas. Là, maintenant, je compte repartir en Laponie, ça va me prendre 2 jours de train, mais ça va être 2 jours de train où, déjà, je vais traverser des paysages splendides, et en plus, bah, ça va être du kiff, ce sera déjà une expé dans l'expé, tu vois, il y a toujours le petit... Je suis arrivé à temps à la gare, puis j'ai ma correspondance et je serai dans le challenge, ça va être bien. Puis j'aime bien le challenge aussi, je pense que toi aussi. Et donc c'est un challenge maintenant de se dire bah, j'y vais en train, quoi. C'est un challenge, et donc quand je le vois comme un challenge, ça me motive à fond, quoi. Et donc
ouais, vraiment.
Oui, bon, challenge aussi. Je suis pas en train de dire que je prendrai plus jamais l'avion. Voilà, moi j'ai encore des pays que j'aimerais vraiment aller. Le Canada par exemple, ça me chaufferait trop. Mais si j'y vais, du coup je resterai longtemps et je profitais de l'endroit, quoi. Ce sera pas un short trip ni rien. Là, tu restes longtemps et t'en profites à fond. Et par contre, l'avion avec parcimonie, quoi.
Ah, c'est ça. Je dis déjà, c'est tout le monde, au lieu de filer, en faire des mini-trips pour le week-end, ne fait prendre plus l'avion qu'une fois tous les 3-4 ans avec un truc bien préparé où on en profite longtemps. Ça change déjà tout, quoi. Il y a autre chose entre tout ou rien. Il faut faire le maximum d'efforts, plus l'avion du tout, c'est chapeau, c'est génial. Mais si ça vous titille trop, juste à l'économie, peut-être. Un petit peu moins souvent, c'est déjà bien. Les petits pas sont appréciés, même si on a besoin de grands maintenant. Comme tu le sais, si tu m'écoutes régulièrement, Storylific a une double mission. Te donner des envies de nature, grandeur nature, et de planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens le podcast, tu me soutiens dans mon travail de création et tu aides la reforestation, puisque je repartage la moitié de mes bénéfices avec l'ONG Graines de Vie. Alors, si tu crois en ce projet et que tu veux me soutenir activement, rendez-vous sur www.patreon.com/storylific. Cela permettra au projet d'être pérenne, alors un grand merci d'avance. Sinon, tu peux aussi m'aider gratuitement, planter des arbres avec les oreilles en parlant de ce podcast autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Ça vaut la peine, non? Quel conseil donnerais-tu à un étudiant sur le point d'entrer dans le « entre guillemets monde réel » ?
Alors moi, je suis quand même très très content d'être passé par la case employée, en tout cas, avant d'entreprendre. Mais déjà, j'encourage à tous ceux qui ont des petits rêves ou quoi, même si on n'est vraiment pas loin dans ce qu'on entreprend là maintenant, de se lancer, parce que ce que je sais, en tout cas moi, c'est que je le regretterai jamais, dans le sens où si je ne l'ai pas fait et si je ne l'avais jamais fait, à un moment, j'aurais eu le regret de jamais m'être lancé, alors que là, maintenant, je suis certain que j'aurais pas ce regret-là, et j'ai toujours la possibilité de retourner dans une autre société, ou de retourner dans le statut employé, je veux dire. Alors que le cas contraire, se lancer, c'est compliqué, c'est un gros choix. Tu vas avoir, tu connais ça aussi, hein, mais dans mon cas aussi, il y a la famille qui joue, il y a tes parents qui te demandent si c'est vraiment une bonne idée, tu vas pas te rémunérer sûrement pendant un petit temps, c'est très fréquent. Tu dois calculer tout ça, et ça vaut le coup d'essayer si t'as une idée. Essaye, tant que t'es jeune surtout aussi, et même enfin je veux dire à n'importe quand, mais moi j'ai la chance de pas avoir de famille aussi pour l'instant, etc. Donc je pense que c'est une facilité du coup. Par contre, si t'as l'occasion de faire un an ou deux avant pour apprendre vraiment et te professionnaliser un tout petit peu, ça vaut le coup. Parce que moi, je pense que si je m'étais lancé directement après mes études, j'aurais manqué d'un certain professionnalisme, d'une certaine structure et d'une certaine vision de l'entreprise qui, voilà, qui est liée au monde réel, qu'on ne sait pas faire sans. Il y a une certaine, voilà, l'entreprise a un certain canevas qu'il faut quand même respecter, même si il faut être innovant là-dedans, je veux dire, au niveau de la gestion humaine et tout, il faut être méga innovant. Mais par contre, il y a quand même certaines choses où il faut pouvoir le respecter pour pouvoir avoir une entreprise qui tient le coup, quoi.
Effectivement, aller faire un quelque part comme un premier emploi, le voir comme un stage.
Ouais, tout à fait.
Dans le monde de l'aventure ou de l'entrepreneuriat, parce que souvent les choses se recoupent très fort, hein, puisqu'on dit toujours l'aventure entrepreneuriale, c'est pas pour rien. Quel conseil ou avis entends-tu souvent?
Erroné.
C'est toujours le meilleur conseil à ne pas écouter.
Ouais, mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense.
Vas-y, lâche.
Non, mais tu vois, c'est parce que justement, on donne beaucoup de conseils, en fait. Ça, c'est... Les gens adorent donner beaucoup de conseils. Hein. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, quand tu te lances, le premier conseil qu'on te donne souvent, c'est typiquement, ça c'est un classique, créer un business plan, un plan financier, enfin des pages. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. Pour l'instant, on l'a jamais utilisé. Il est déjà plus applicable, alors il m'a pris beaucoup de temps. Et il a déjà plus rien à voir avec notre stratégie aujourd'hui. Et donc, oui, faire plutôt alors un petit business model Canva, donc c'est des petits business plans, mais très courts, parce que, en fait, ta vision de ton entreprise, elle va faire qu'évoluer et changer, parce que tu vas voir des trucs, tu vas voir que la réalité sur le terrain n'est pas vraiment ce que tu avais imaginé. Et donc, il faut juste se lancer, trouver ses premiers clients, trouver sa première communauté, et puis après, le jour où tu auras besoin, je sais pas, d'un crédit bancaire, ou là, vas-y, fais-le. Mais là, pour l'instant, ne perds pas de temps avec ça, lance-toi, quoi. Et va à un maximum d'événements pour te faire connaître. Et puis, pas écouter non plus trop les gens, parce que typiquement, dans le monde de l'aventure, il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien, et donc qui se disent, mais il n'y a pas de marché, c'est nul, enfin, ça va jamais fonctionner. En plus, vous voulez pas prendre l'avion. T'as des visions de gens qui sont pas du tout là-dedans, et puis t'as d'autres visions qui sont à fond dedans, donc tu finiras bien par trouver des gens qui sont intéressés par ton projet. Et nous, là maintenant, bah, avec Discoverent, on est assez contents sur notre fast test, donc ça fonctionne pour l'instant mieux que ce qu'on avait imaginé. Donc, on a pu donner tort à ces quelques détracteurs, quoi.
Super. Et donc, ben voilà, c'est peut-être le moment de présenter ce qu'est Discoverent.
Alors, Discoverent, c'est une agence d'aventure. Donc, on organise des aventures pour les particuliers. Maintenant, il y a moyen de privatiser aussi ces aventures, donc pour les entreprises ou pour des AVG, des familles, toujours avec des guides. Donc, c'est des aventures qui sont encadrées par des guides et en pleine nature. Donc, on part, en fait, vraiment à l'aventure sauvage avec des gens. On fait des nouvelles rencontres, parce que ce sont des groupes dans lesquels tu t'inscris, tu peux t'inscrire individuellement. Et on fait des nouvelles rencontres et on apprend souvent des nouveaux sports d'aventure. Donc tu pars en packraft en Laponie, ou tu peux partir faire du ski de rando en Haute-Maurienne. Tu peux aller faire du surf et du yoga en Galice. Là maintenant, pour cet hiver, je suis en train de bosser sur du voilier et du ski de rando dans le Lofoten en Norvège. Et donc ça, c'est le principe, c'est juste essayer de vivre ces émotions fortes dont je parlais, les faire vivre à un maximum de gens en pleine nature. Et donc, grâce à ça, j'espère que les gens pourront déjà découvrir un vrai attrait s'ils n'ont pas encore fait vraiment de voyage en nature et tout ça, et une connexion avec cette nature, avec l'environnement. Et puis, peut-être aussi essayer de la respecter un maximum. Il y en a plein qui le font déjà. Hein. Je pense que les gens qui partent avec nous pour l'instant le font déjà. Mais du coup, ça permet vraiment de trouver une connexion encore supplémentaire avec la nature et avec les gens avec qui tu pars. Parce qu'il n'y a rien à faire, une expédition, quand tu pars avec des gens, tu te lies énormément aux gens parce que tu vis des moments forts avec eux. C'est comme ça avec tous tes meilleurs amis. Pourquoi sont tes meilleurs amis? Souvent, c'est des amis à la base avec qui tu as vécu des moments forts, quoi. Mais là, ces gens, parfois, sont des inconnus, mais t'en sors de fils ami parce que tu as vécu ces moments assez forts, des moments où tu as eu peur, des moments où tu as eu froid, des moments où, au contraire, après cette peur et cette froid, tu te retrouves comme le packraft où on était dans cette eau calme avec l'harmonica. Dans des moments où justement tu retrouves de la chaleur, etc., et tu te sens bien, quoi.
Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'avais interviewé François Sarano, et en fait j'avais pris contact avec lui après avoir lu une interview de lui, où il disait on n'arrivera pas à protéger durablement l'environnement si les gens ne se reconnectent pas d'abord à eux-mêmes. Ça, j'y crois vraiment très fort aussi, parce qu'on vit toujours complètement dans une société qui nous mécanise très fort. Enfin, voilà, je trouve qu'on se dit on doit fonctionner comme ça en entreprise, pas montrer ses émotions, pas ceci, pas cela. Mais si, c'est très important de rester connecté à soi, à ses valeurs, comme tu le disais, sinon c'est comme ça que les gens terminent en burn-out. Se reconnecter aux autres, Et souvent, on n'a plus le temps pour les autres, quoi. Enfin, si en général, tu as besoin d'un service, tu te rends compte, ah non, j'ai pas le temps, machin. La connexion humaine est super importante si on veut réussir à faire quelque chose de durable aussi. Et puis alors, quand les gens seront connectés à eux-mêmes et aux autres, on pourra commencer à les reconnecter à la nature. Et je crois que justement, c'est très fort ce que vous voulez faire chez Discover End.
Tout à fait, mais il a écrit un livre, c'est un livre du coup, ou bien c'était une conférence?
Ça, c'était, une interview d'Alain Birkenbaum pour Le Vif. Oui, je dois l'avoir ici.
Faudrait que tu me l'envoies,
ouais. Ouais, c'est magnifique. Et quand j'ai lu ça, j'ai même pas achevé l'article, j'ai foncé voir essayer de trouver qui est François Sarano, puis j'ai envoyé directement une demande. Je rêve de vous interviewer, ça résonne tellement bien. Fort. Ouais, ouais, ouais.
C'est dans le mille, quoi.
Ah ouais.
C'est dans le mille, mm-hmm. Exactement.
Complètement. Et il a écrit un autre livre. Attends. Se reconnecter avec la vie sauvage, c'est une merveille. C'est une merveille. Franchement, je mettrai les références dans le note de l'épisode. Et ça dit tellement ça, ce lien qu'on a perdu avec la nature. Et ça ne nous fait pas spécialement du bien. Hein. En fait, c'est un peu... on confond beaucoup plaisir et bonheur, je trouve. Tu vois, les plaisirs, c'est des shoots de cocaïne en général, ce qu'on nous propose comme étant le bonheur au quotidien si tu regardes la télé. Et puis, quand tu fais des aventures comme ça, bah, tu te retrouves juste... Mais c'est tellement plus grand, quoi. C'est quand tu dis, ouais, cette fois-ci, je me sens vraiment vivant, tu te dis, mais on me faisait croire que le bonheur, c'était une olive dans une boîte à sardines, quoi. C'est dingue. C'est, voilà, c'est réconcilier les hommes avec la vie sauvage. C'est juste un livre qui m'a complètement bluffé. Voilà. Ouais, ça, je te le conseille okay. Vivement.
En tout cas, aller lire, franchement, c'est le genre de livre que j'adore. Et, ouais.
T'as des livres, toi, qui justement, te font rêver?
Justement, là, je suis
rêver.
En train de lire un truc que j'aime trop, mais c'est un format un peu bizarre. Ça s'appelle Double Espresso. Mmh. Cédric, j'ai oublié le nom de l'auteur maintenant, mais Double Espresso, c'est un format de plein de petites histoires dans un livre. Et donc, c'est un alpiniste qui a écrit ça. Et sont ses pensées, quoi. Donc, c'est toutes des pensées, courtes pensées sur trois pages. Donc, à chaque fois, trois pages. Je sais pas, par exemple, il fait un petit texte sur le vent, sur l'arête. Et donc, il fait des analogies en disant, ben voilà, le vent sur l'arête, sur une arête. C'est vrai que quand t'es en alpi sur l'arête, tu prends souvent, quand il y a un peu de vent, tu te prends vraiment le vent, quoi. Et donc, tu perds un peu ton équilibre, t'es avec ton sac et tout. Et du coup, il fait des analogies avec la vie, avec les petits moments de la vie, etc., avec l'enfance, parfois. Et à chaque fois, je trouve ça tellement bien trouvé, tellement juste. C'est génial comme livre. Donc, moi, je le conseille vraiment, vraiment, ouais. Je l'adore.
Ah, super, je vais
Double Espresso.
Aussi. Double Espresso.
Ouais.
Ok, trop chouette. Et alors... D'après toi et ton expérience, c'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie, réussir ses rêves?
C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc,
ouais,
comme
oui.
Tu sais, moi, je viens de dire que je suis tombé du nid parce que c'est le cas. Mais moi, ce que je pense, et je ne le dis pas encore d'expérience parce que j'espère pouvoir le dire d'expérience dans quelques années, c'est que justement, si tu suis déjà ton instinct, et moi, mon instinct, il mène vers ce que j'aime, et ce que j'aime vraiment, c'est être dehors et faire des sports d'aventure, et ben j'espère que ça mène vers... En tout cas, que la passion mène vers pouvoir vivre. En fait, la réussite, pour moi, c'est pouvoir vivre de ma passion. Et donc j'espère que cette passion va me mener vers la réussite. Et en fait, j'y mets, vu que Marie et moi, on y met tous les deux tout notre cœur, et ben, j'y crois à fond. Et de jour en jour, quand je vois le travail qu'on y met et le cœur qu'on y met, j'ai vraiment énormément foi dans le projet. En plus, quand je vois les gens géniaux qui nous entourent, qui nous supportent à fond, qui nous envoient des messages... Donc oui, j'espère en tout cas que, et je pourrais le confirmer ou pas dans quelques années, que la passion mène vers ce succès qui est vivre de sa passion.
Ouais, en tout cas, on est beaucoup plus résilient, parce que quand on aime tellement ce qu'on fait, on reste pas facilement par terre, même après les coups durs.
Ça, c'est vrai.
Justement, donc Discover End, ça avait commencé par de la location, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Rent.
Voilà, tout à fait.
Et donc, oui, ces merveilleuses tentes. non, c'est d'autres, je crois.
C'est d'autres tentes, tout à fait. C'est d'autres tentes qu'on louait, mais on louait. Donc, à la base, on a commencé, en fait, tout bonnement par de la location, bêtement de matériel. Donc, on avait du matériel d'aventure. On se disait, ben voilà, le matériel d'aventure, ça traîne souvent dans un garage le trois quarts de l'année. On va en louer et ça permettra d'utiliser plus souvent ce matériel. En plus, on va pouvoir acheter du matériel de meilleure qualité et donc proposer aux gens de partir donc à chaque fois avec du matériel de bonne qualité. Enfin, ils ne vont pas l'acheter parce que ça coûte aussi, ça coûte à chaque fois cher. Hein. C'est du matériel, finalement, pour que les gens puissent faire quelque chose de... C'est pas quelque chose de vital d'aller partir à l'aventure. Donc, c'est du matériel qui coûte assez cher.
Oui, mal s'équiper, c'est dangereux. Et puis acheter très cher pour une fois
voilà,
ou deux,
exactement.
Ça sert à rien. Donc oui, c'est une bonne idée.
On était parti sur un modèle de location et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les gens qui venaient nous louer, souvent ils nous disaient « Oui, mais Est-ce que tu n'aurais pas un bon plan pour quelle rivière descendre, etc. Alors là, on a commencé à faire des roadbooks en disant, ben voilà, ce matériel-là, tu peux l'utiliser pour aller faire ça, on connaît un guide local là-bas, on a cette rivière-là, c'est un super parcours, voilà la trace GPS qu'on t'a fait avec OpenRunner. Donc on a commencé à faire ces roadbooks pour guider un peu les gens. Et puis à un moment, on s'est dit, mais en fait, on peut aller plus loin que ça, et ça peut être vraiment chouette de devenir une agence de voyage et d'amener carrément les gens totalement à l'aventure. Parce qu'en fait, ce qui est un peu ingrat avec la location, c'est que tu vois pas le sourire des gens. Ils arrivent, ils reviennent, tu vois, ils ont un sourire, ils sont contents, ils te rendent, ils te disent c'est génial. Mais là, maintenant, là, je pars dans les Gorges du Verdon, semaine prochaine, on va faire canyoning et descente des Gorges du Verdon en packraft. Mais donc, pour arriver jusqu'au fond des Gorges, on va y aller en canyoning. Et pendant les 4 jours, j'espère, en tout cas, normalement, ce sera le cas, mais voir des sourires tout le temps. Et ça va mettre le baume au cœur, mais un truc de dingue, quoi.
Et alors, oui, vos expés que vous organisez, il y a des niveaux déjà assez engagés, puis un niveau plus accessible, c'est ça, hein?
Oui, par exemple, packraft Verdon, voilà, il ne faut pas avoir la peur du vide. On a un rappel de 45 mètres à un moment sur le parcours. On arrive au fond des Gorges du Verdon. Le Verdon, ça reste une rivière quand même assez mouvementée. Et puis, il y a de la randonnée quand même avec un peu de dénivelé positif. Donc pour ça, on demande quand même d'avoir une petite condition physique. Et ensuite, on a des expéditions beaucoup plus accessibles. Donc surf et yoga, c'est une retraite. Pour nous, c'est une expédition parce que c'est une aventure intérieure. C'est un moment où les gens vont se relaxer et faire du yoga et faire de l'introspection.
Ouais, surf et yoga, c'est vachement sympa ensemble, hein, j'avoue.
On a aussi maintenant des randonnées familiales avec des jeunes enfants où on fait des 3, 4, 5, 6 km par jour. Premier bivouac. Et alors ça, j'adore parce que...
C'est sympa ça, pour mes loulous, je savais pas.
Ouais, la guide, elle est géniale. Elle s'appelle Laetitia. Et elle est bergère, elle, à la base.
Ouais, c'est top.
Travailler avec des guides, je trouve ça génial, parce que ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier. Des gens, il n'y a pas de chichi, toujours super sympa. Et moi, dès que je peux, du coup, dès que je vais en montagne ou quoi, et ben, je vais les voir, boire un verre avec eux, etc. C'est génial.
Ah bah, t'as pas choisi le pire des métiers, hein, ça j'avoue. Et alors, dans vos valeurs, vous essayez vraiment d'être les plus légers possibles en CO2, donc c'est pour ça que je suis très contente de vous mettre à l'honneur ici, hein. Alors, il y a tout un tas fait moyen de faire des choses géniales sans exploser le compteur CO2.
Mais donc, voilà, donc, qu'est-ce qu'on s'est dit au quotidien? On se dit, ben voilà, pour nous, pour changer les choses, il faut arrêter d'essayer d'innover dans tous les sens et de créer de la nouvelle technologie pour demain avoir, je sais pas, encore un produit de luxe qui sert à rien mais qui marche à l'énergie solaire. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu la structure de notre société et voir comment on fait les choses. Ici, comment est-ce qu'on part en voyage? On part en voyage encore souvent en prenant l'avion, en se posant sur une plage une semaine et puis en repartant en prenant l'avion. Voilà, c'est un peu dommage. Donc comment est-ce qu'on peut changer le voyage? Comment est-ce qu'on peut faire un voyage plus responsable? On a un peu étudié les plus gros émetteurs lors des voyages. On a voulu savoir ce qui émettait le plus, quoi. Évidemment, le transport, ça on savait. Mais après, le transport, c'est pas clair de qu'est-ce qui peut émettre le plus. Et donc, on l'a un peu étudié. Donc, il y avait le transport, évidemment. Donc là, c'est un premier pôle. Même Galice, surf et yoga, les gens vont y aller en covoiturage voiture, en s'arrêtant à Bordeaux, en faisant un city trip. Donc même là, il n'y aura pas d'avion. Donc vraiment, pour l'instant, on a zéro avion. Et on a envie de continuer sur cette lancée. C'est vraiment le but. Donc là, je t'ai parlé de voilier et ski de randonnée dans le Lofoten. Là, notre plus grosse barrière pour l'instant, c'est cette histoire de comment y arriver sans prendre l'avion. Donc là, on est en train de réfléchir à plusieurs solutions pour essayer de faire des trucs en train ou en ferry super, une expédition dans l'expédition sur le chemin pour y aller. Et du coup, ça, c'était le pilier numéro 1. Puis il y a le pilier numéro 2, qui est la nourriture. Si tu pars dans un all-in ou dans des gros hôtels où tu as de la nourriture à gogo, souvent, cette nourriture, j'ai pas envie de nommer qui que ce soit, mais cette nourriture est parfois importée depuis le pays d'origine de l'endroit, quoi. En surgelé, donc c'est ahurissant, quoi. T'as de la nourriture qui a voyagé aussi. Et donc, la nourriture, ça pollue beaucoup. Mais alors là, nous, on a voulu aller plus loin parce que c'est pas juste, je vais pas importer ma nourriture. C'est qu'on veut, déjà, évidemment, on achète la nourriture localement. Et puis après, on essaye de réduire à fond les déchets là-dessus. Mais les déchets, c'est plus dur parce qu'on n'a pas la main mise totalement dessus. C'est-à-dire que, je te prends des exemples concrets. Mais il y a, par exemple, des soirs, on mange dans un refuge. Très souvent, les refuges, donc c'est que de la nourriture locale. C'est même toujours quasiment le cas, mais on vérifie quand même. Par contre, les déchets, ça, je sais pas contrôler dans un refuge. Je sais juste que c'était vraiment dans un refuge haut. Les déchets de refuge sont redescendus en hélico, donc ils ont intérêt à réduire leurs déchets normalement. Et après, ça, je sais pas contrôler, quoi. Mais la nourriture que nous, on prévoit pour toutes les personnes qui participent aux expéditions, c'est de la nourriture. On va directement chez des producteurs locaux et on prend directement le fromage, le saucisson, sans déchets, quoi. Et puis maintenant, le gros challenge aussi, c'est qu'on va lancer des expéditions plus poussées, donc comme Packraft en Laponie. Et là, la grosse question, c'est comment on va faire pour la bouffe lyophilisée. Donc on connaît des partenaires, on connaît déjà des gens, on en a entendu parler, qui font de la bouffe lyophilisée un peu responsable, mais c'est pas zéro déchet par contre. Et donc ça, c'est la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va se débrouiller là-dedans. Donc c'est un challenge constant, et on fait ça totalement par, enfin, parce qu'on y croit à fond, mais évidemment, c'est un challenge de plus, quoi. Mais c'est un beau challenge.
Et le logement aussi, vous faites gaffe.
Donc le logement, c'est le dernier pilier. Là, c'est le plus facile, je dirais, dans le sens où, en fait, c'est, pour moi, c'est du bon sens. C'est que déjà, pour nous, c'est beaucoup plus facile parce qu'on dort souvent sous tente ou dans des refuges. Et les refuges, c'est électricité solaire, c'est eau, c'est toilettes sèches, etc. C'est toujours, voilà, les gens sont en pleine montagne, toujours gaffe. Puis, tu sais, le milieu de la montagne, c'est un milieu assez engagé.
Ah ben voilà, là, on a fait un peu le tour de l'aventure de Discover End, donc qui a commencé il y a un an, c'est ça?
Ouais.
Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée?
Mais écoute, difficile d'y répondre. Non, je pense que franchement, c'était... Merci beaucoup. C'était vraiment chouette comme échange. Mais si j'avais d'autres questions, je te poserais plutôt des questions sur toi et sur tes interviews, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui me passionnent, qui t'ont interviewé aussi. Et ça m'impressionne le nombre de gens qui t'as pu interviewer, qui sont ultra inspirants. Et donc, je suis hyper impressionné. Et donc, ouais, j'ai plein de questions pour toi, mais je pense que ce sera après. Parce que
oui, on va déjà... se prendre un petit verre ensemble, on papotera. Mais c'est vrai que c'est une grande chance d'avoir des gens à mon micro. Je dois dire que c'est vrai qu'on m'a posé la question. J'avais fait un podcast avec mon hébergeur PodCloud qui m'interviewait. Et il me disait, bon, alors, quel est ton podcast par lequel les gens devraient commencer Et puis, alors, j'ai dit, il y a celui-là. Et en fait, j'adore chacun de mes épisodes parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas choisir. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à un de mes invités et à ce qu'il m'a dit, tu vois. Et c'est mes mentors, quoi, c'est mes coachs. Vous tous, vous êtes des inspirations pour moi au quotidien et c'est trop génial. Et j'espère que je peux partager ça, effectivement, avec les auditeurs. Donc, je suis contente si j'ai un retour. Je ne savais pas que tu avais déjà écouté. Ça me fait très plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre aussi avec Marie, dont je n'ai pas assez parlé? Oh, on n'a pas assez parlé de Marie, pourtant elle est passée te déposer là. Vous disiez pourtant que vous êtes très important d'être en binôme comme ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui peut être très solitaire, pouvoir partager les hauts comme les bas, c'est trop génial.
À fond, c'est super important. Donc on est deux dans Discover End, il faut absolument le dire. Donc il y a Marie et moi, et donc avec Marie, on forme un duo qui est, enfin, pour moi, en tout cas, indispensable, dans le sens où on partage tous les bons moments dans Discover End et on partage aussi tous les mauvais moments. Ça paraît anodin quand je le dis comme ça, mais ne pas le partager, je pourrais même pas l'imaginer, quoi. Ça fonctionne super bien, on est super complémentaires, on est trop bien, dans l'aventure ensemble, Discover End.
Vous êtes un peu distribué les rôles, comme ça?
Oui, on s'est un peu distribué les rôles. Il y a certains trucs qu'on fait tous les deux. Typiquement, dans l'organisation d'expé, on est tous les deux actifs. Quand on crée une nouvelle expé, chacun, en fait, trouve facilement ses rôles dans la création de l'expé. Par contre, tout ce qui est plutôt...
C'est Marie qui choisit les tentes. J'essaie de pas faire fuir tes clients. Je suis désolée, je t'ai vannée avec ça, mais ça m'a trop fait rire, cette histoire.
Ouais. Les tentes, pourtant c'était de la tente de qualité celle-là. On nous l'avait prêtée en plus, je te l'ai pas dit, c'était le boss, parce qu'on avait un ami qui travaillait déjà, le boss de mon ami qui nous avait prêté une tente carbone, nickel. Donc après on a dû revenir à la fin avec la tente cassée.
Très fière.
Voilà.
Merci encore.
On a dû la rembourser évidemment, donc ouais, on avait l'air malin. Non, donc avec Marie, c'est un des conseils aussi que je donnerais, c'est peut-être se lancer seul quand t'as 25 ans, c'est très intense, faut être sûr de soi et c'est un choix ultra respectable. Sensé à deux, c'est génial, quoi.
Bah oui, tout à fait. Donc pour te retrouver, on peut te retrouver sur discoverend.be.
Le site, c'est discoverend.be. Il y a Instagram aussi, où c'est discoverend.be. Mais via le site, on retrouve tout. Hein. Et puis sur Facebook, c'est discoverend aussi. Là-dessus, y a toutes les infos qu'il faut. Quoi.
Super grand merci d'être resté à Namur. Oui, je dis bien. Il fait chaud. On commence à avoir chaud ici dans le studio. On est content d'aller se rafraîchir. Merci beaucoup, Maxime.
Avec plaisir. En tout cas, merci à vous.
Si tu as envie d'en savoir plus sur Discover End et les activités qu'ils proposent, je te mets le lien vers leur site dans les notes. Cet épisode n'est pas sponsorisé, c'est un plaisir de mettre en avant toute initiative ou entreprise outdoor qui réfléchit en profondeur impact carbone et environnement. Discover End propose expé et micro-expé aussi bien en été qu'en hiver, donc je ne sais pas quand tu tomberas sur cet épisode, mais il devrait de toute façon y avoir de l'actu. Et puisqu'on a parlé location de matériel d'aventure, quelle que soit l'aventure qui te tente dans l'absolu, je t'encourage toi aussi à envisager de louer plutôt que d'acheter quand c'est possible. Les adresses ne manquent pas, donc où que tu sois, tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à trouver ton bonheur. Et comme toujours, je te mets le lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus des photos, la vidéo des ahuris en Laponie. Dans les prochains épisodes, on parlera tour du monde, Mongolie, grand voyage à vélo, tout quitter pour randonner pendant 2 ans, plantation d'arbres à Madagascar et même recherche scientifique aux résultats étonnants en montagne. Alors, à bientôt !